Bon, alors on en est à la motion numéro 3, contrat de ville et dotation de solidarité urbaine et cohésion sociale. Madame Cossic.
Oui, merci Monsieur le maire. Il vous est donc présenté le rapport 2015 et 2016 du contrat de ville et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, comme le prévoit la loi sur la programmation pour la ville et le Code général des collectivités territoriales. Vous avez par ailleurs les retranscriptions des débats des conseils municipaux de Metz et Voipy, ainsi que ceux des conseils citoyens qui sont annexés au rapport final. Le conseil communautaire, par ailleurs, approuvera le rapport et indiquera les suites qui peuvent être réservées aux observations formulées, puisque, rappelons-nous, la politique de la ville est aujourd'hui d'intérêt communautaire. Nous rappelons donc la géographie prioritaire de la politique de la ville. Nous rappelons que la ville de Metz a été bénéficiaire d'une dotation d'un montant de 5 250 000 euros pour 2015 et de 5 306 000 euros pour 2016, qu'elle a permis à la ville de Metz de déployer des services de proximité, un soutien aux différentes associations qui œuvrent sur ces quartiers, ou encore des programmes spécifiques en faveur de la réussite éducative, ou l'appui aux copropriétés en difficulté. Nous rappelons également que cette dotation a contribué à la réalisation d'investissements dans les quartiers de la géographie prioritaire, comme la boîte à musique, le centre de propreté urbaine, la rénovation des locaux de la MJC de Borny, la construction de l'Agora ou l'espace multi-accueil Les Primes Verts, mais également des travaux dans des équipements municipaux, scolaires, sportifs, etc. En conséquence, la délibération est soumise à votre approbation.
Merci. Alors, un grand nombre de personnes sont inscrites. Madame Grelet, Madame Singer, Madame Collin-Osterlé, Madame Zimmermann, Monsieur Vending, Monsieur Korganika, Monsieur Lekadir. Alors, Madame Grelet.
Oui, Monsieur le maire. On arrive enfin dans le fond des rapports. Hein, ça fait une heure que nous siégeons. Mais nous y voilà, donc sur ce contrat de ville qui fait l'objet d'un rapport, et ça c'est une bonne chose, parce que c'est toujours intéressant de voir de près, et je l'ai lu avec attention, ce qui est fait avec ces budgets importants. J'avais l'intention de vous demander ce qu'il en serait à l'avenir avec les incertitudes liées au désengagement de l'État. Eh bien, je pense qu'on a toutes les raisons de s'inquiéter et peut-être de recentrer ces budgets sur lesquels il y a une grande dispersion. C'est ce qui m'a frappé en lisant ce rapport, parce qu'on a l'impression de se retrouver un petit peu à Bruxelles avec la gestion des fonds européens. Et donc avec cette complexité, cette lourdeur, je cite, hein, c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Donc il y a 4 axes stratégiques, ça c'est très bien, déclinés en 15 objectifs stratégiques eux aussi, classés dans 3 piliers avec 3 thématiques transversales. Et les 15 objectifs stratégiques se scindent en objectifs opérationnels, couplés avec les 5 ambitions pour 2032, réparties en 3 envies. Ça donne un tableau sur 3 pages. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le sketch sur la novlangue éthico-managériale, où on pouvait prendre l'expression dans chaque colonne et la coupler avec les autres colonnes, et ça donnait toujours quelque chose qui voulait tout et rien dire. Mais parfois, il y a beaucoup de jargon et on a un peu de mal à s'y retrouver. Par ailleurs, la gestion humaine avec les comités, les réunions, les conseils, les copiles, les cotec, etc., je pense que c'est aussi très lourde. Au final, on arrive par exemple à des conseils citoyens qui sont venus s'ajouter au conseil de quartier. Je sais que c'est une obligation légale, mais il y a un peu de déception chez les personnes qui se sont engagées là, qui ont été difficiles à trouver, parce qu'elles ont l'impression de parler dans le vide. Il y a tout de même d'appréciables, elles ont un pouvoir d'interpellation qui aboutit parfois à des actions concrètes sur le terrain, des améliorations. Mais faut-il vraiment passer par quelque chose d'aussi complexe pour améliorer tout simplement notre cadre de vie, la propreté, etc. Je ne le crois pas. Donc au final, je n'ai pas terminé. On peut se demander, s'agissant de budgets énormes, hein, donc 2015, 120 actions, 2 400 000, dont 1 400 000 de l'État, 900 000 de l'État, et 2016, je rappelle, 151 actions, 2 900 000 au total, 1 600 000 des collectivités et 1 300 000 de l'État. Cela appelle à s'interroger, comme on l'a déjà fait, sur l'efficacité de cette politique de la ville, puisqu'on constate qu'il y a de plus en plus, les problématiques sont grandissantes, je l'ai lu dans le rapport, de plus en plus lourdes. Donc quand remettra-t-on en question les choix politiques qui nous ont amenés là ? On constate des choses très basiques, comme un manque de bénévoles pour l'apprentissage du français, les dispositifs de réussite éducative qui sont certes intéressants, mais quand on voit qu'on a besoin, encore une fois, de passer par la politique de la ville pour avoir des psychomotriciens, des psychologues ou des orthophonistes, et je crois que ça ne va pas s'arranger dans l'immédiat, et ça serait aussi nécessaire dans tous les quartiers, pas seulement dans les quartiers politiques de la ville. On aimerait qu'il y ait un peu un questionnement sur les choix politiques donc, qui nous ont conduits là. Et enfin, sur les partenaires, j'avais encore un mot à dire. Pour souligner, par exemple, Est Habitat Construction, qui parle de surentretien, donc de réparation systématique des équipements collectifs vandalisés. C'est un petit point, mais qui me semble intéressant, parce que si on généralisait la réparation systématique, la poursuite systématique, donc ne pas de laisser faire, tolérance zéro, ce serait un signal de volonté de donner ses chances au vivre ensemble. Et un dernier mot sur les chantiers d'insertion et la Chambre des métiers et de... La Chambre des métiers, donc, qui parle d'une concurrence un peu faussée entre ces chantiers d'insertion et qui sont peut-être une réponse artificielle, même si bien nécessaire aujourd'hui, à un vrai problème. Il faudrait aussi donner leur chance à ceux qui peuvent créer des emplois, qui peuvent donner la possibilité à chacun de trouver un vrai métier pour que chacun puisse entrer dans l'emploi. Je vous remercie.
Alors merci Monsieur le Maire. Alors en préambule de mon intervention, je souhaite vous faire part de ma surprenante lecture de votre projet de délibération. En effet, vous présentez aujourd'hui un rapport 2015, enfin pour les années 2015 et 2016, alors que la première phrase du document rappelle la loi et affirme, je cite, la loi numéro 2014-173 du 21 février 2014. De programmation pour la ville et la cohésion sociale prévoit que chaque année, un bilan soit présenté pour débat au sein des organes délibérants des collectivités signataires du contrat de ville ainsi qu'au conseil citoyen. C'est assez surprenant, monsieur le maire, que ce soir vous n'ayez pas respecté la loi. Peut-être encore une fois, voilà. Me laissant évidemment porter par cette littérature de contrat de ville et oscillant entre, je dois le dire, le spleen et l'idéal, je suis restée également surprise de constater que des crédits de la politique de la ville ont été utilisés pour réaliser notamment le centre de propreté urbaine, bien utile certes, mais ce centre de propreté urbaine qui aurait pu faire l'objet d'un autre financement que celui de la politique de la ville, qui baissera par ailleurs de 11% à nouveau cette année. En France, en l'occurrence, c'est tout de même 46,5 millions d'euros en France en moins pour la politique de la ville. Une baisse actée par le gouvernement et soutenue par votre ancien premier adjoint, aujourd'hui député. Bien évidemment, la liste n'étant pas exhaustive ici. Il aurait été judicieux, je crois, de consacrer l'ensemble de l'enveloppe à ce pourquoi elle était destinée. Et si, bien évidemment, monsieur le maire, vous ne savez pas, demandez à votre opposition. Nous avons de nombreuses propositions que l'on vous fait parvenir régulièrement, mais qui trouvent rarement l'écho à croire que quand les idées viennent de nous, vous les rejetez. Vous savez, je comprends, c'est un choix politique de votre part, mais l'intérêt général, je crois, quelles que soient nos orientations politiques, devrait toujours primer. Cela vous aurait d'ailleurs évité des erreurs, de graves erreurs, comme celle notamment sur le stationnement payant qui ne passe absolument pas et qui est justement qui met justement des habitants de notre ville dans des situations financières précaires. Voyez, monsieur le maire, je pense que aujourd'hui vous avez la possibilité de faire autrement. N'augmentez pas, monsieur le maire, le nombre de quartiers sensibles demain, ce serait déjà une belle avancée et en corrélation justement avec la politique de la ville. Je vous remercie.
Oui, monsieur le maire, je voudrais profiter de ce point pour m'exprimer sur la diminution des crédits d'État sur la politique de la ville. On en a discuté assez longuement lors de la commission de cohésion sociale où siégeaient certains élus à Metz Métropole. Alors c'est vrai qu'il y a eu une suppression assez drastique qui a été annoncée au cours de l'été avec application immédiate. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur les contrats aidés. Et c'est quand même sur une enveloppe de 1 104 000 euros qui avait été notifiée fin février et qui concernait donc les quartiers prioritaires, dont les 5 quartiers de Metz, que sont Borny, Bellecroix, Haute-Vallière, Sablon-Sud et la Patrotte Metz-Nord. 15% de ces crédits, soit une enveloppe de 130 000 euros, a été supprimée. Et cela a été annoncé effectivement cet été, donc ce qui change considérablement la donne en cours d'année. Alors c'est toujours pareil, c'est la différence, enfin le problème de la forme et du fond. Et moi j'aimerais bien quand même entendre, encore une fois je le dis, ceux qui portent aujourd'hui la politique gouvernementale, qu'ils nous expliquent les raisons de cette brutalité. Parce que sur le fond, et pour être tout à fait sincère, je pense effectivement qu'il faut tout mettre sur la table et que les questions que nous vous posons depuis des années, que nous nous posons et que nous vous posons sur la pertinence et l'efficacité de certaines actions, eh bien, elle est effectivement à mettre à l'ordre du jour. Cette évaluation, l'évaluation de ces actions, elle doit avoir lieu. Mais que l'on plonge ainsi avec une telle brutalité les acteurs qui œuvrent au quotidien au bénéfice des populations défavorisées ou fragilisées, qu'on les plonge dans un tel marasme du jour au lendemain, ça n'est pas acceptable. Et vraiment, très simplement et sans polémique aucune, je souhaiterais vous entendre nos deux députés ici présents, issus des rangs de la majorité gouvernementale, nous donner les raisons de cette brutalité, surtout leur vision de la politique en direction de ces publics, de ces quartiers défavorisés. Ça les intéressait jusqu'à aujourd'hui. Je souhaite que ça continue à les interpeller et à les intéresser tout autant. Merci.
Madame Zimmermann.
Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport et effectivement, bon, il y a un travail extraordinaire qui est fourni, je le reconnais. Moi, ce que je souhaiterais, si vous voulez, et c'est effectivement ce qui aurait été ma vision des choses, c'est qu'il y ait un adjoint à temps plein, sans aucune vie professionnelle à côté, qui s'occupe de cette partie de cette délégation. Parce que je crois, si vous voulez, que lorsqu'on regarde votre rapport, il y a à la fois il y a le logement, il y a les activités avec les jeunes, il y a également un point moi qui m'intéresse énormément, c'est la création du centre d'affaires de quartier, qui est, je crois, quelque chose d'extrêmement important, dans la mesure où ça met en évidence le fait que, oui, on croit dans ces quartiers. On croit que ces quartiers peuvent avoir un développement économique qui soit pertinent. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que cette partie de création d'un centre d'affaires de quartier soit développée et que vous puissiez régulièrement nous informer à la fois de l'évolution de ce centre d'affaires et mettre également en évidence le fait que au niveau des embauches, les embauches dans ces structures futures ou éventuellement celles qui ont démarré, les créateurs primés, je souhaiterais que l'on puisse avoir une lisibilité sur l'embauche et savoir si ce sont des jeunes ou simplement des habitants du quartier qui sont dans ces centres d'affaires, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas simplement de les accompagner dans différentes opérations, c'est également les intégrer dans des structures où, sur le plan économique, il y ait une mise en valeur de leur quartier et une exemplarité pour l'ensemble de la ville. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que je souhaiterais également mettre en avant, c'est notamment dans les accompagnements. Un point qui me, si vous voulez, qui d'abord, je suis très consciente que c'est au niveau des jeunes qu'il faut faire un travail extraordinaire, mais je n'ai pas trouvé suffisamment dans l'ensemble du rapport la place des femmes dans ces quartiers et comment, quelque part, il y a un travail qui est fait avec la population féminine. Et je sais que dans ces quartiers, il y a des associations qui s'occupent d'une part des femmes, qui s'occupent des jeunes femmes. Et je crois qu'il faut vraiment prendre des bases solides dans cette population féminine qui a le temps, qui a des transmissions de savoir à faire. Et je pense que là, on peut effectivement être extrêmement productif. Dernier point, effectivement, donc les dotations de l'État, et c'est dans un article du Républicain Lorrain du mois d'août que l'on découvre que l'État subitement a coupé des vivres. Et alors, il y a une vingtaine d'associations de quartiers qui avaient eu leur projet validé. Qu'en est-il à partir du moment où ces dotations ne sont plus perçues? Où va-t-on chercher l'argent? Parce que c'est, à mon avis, une nécessité urgente pour l'ensemble de cette population. Donc voilà les questions que je souhaitais vous poser. Dernière question. J'ai vu, monsieur le maire, que vous avez écrit au Premier ministre. Vous a-t-il répondu à l'inquiétude que vous avez évoquée, notamment par rapport à la baisse des dotations de l'État? Merci beaucoup, monsieur.
Oui, monsieur le maire, sur le rapport lui-même, bon, tout a un peu été dit, puis c'est simplement un bilan des actions qui ont été engagées. Il est certain que le gouvernement actuel est en train de porter des coups extrêmement durs à ces quartiers politiques de la ville, d'une part en diminuant les crédits qui sont alloués à la politique de la ville, deuxièmement en s'attaquant fortement au logement social. Vous avez vu cette semaine les annonces qui ont été faites par le gouvernement et qui mettent à mal toute la politique d'investissement du logement social dans ces quartiers, et Dieu sait qu'elle est importante. Troisièmement, ça a été dit tout à l'heure, les emplois aidés qui sont menacés, en tous les cas fortement diminués. C'est dramatique. Je reviendrai juste sur un point sur les emplois aidés. L'intérêt des emplois aidés, ce n'est pas de retourner vers l'emploi, c'est aussi d'accompagner des gens qui, malheureusement, pour des raisons ou d'autres, ne sont pas capables de faire un travail à 35 heures dans un secteur privé. Et tous ces gens qui ont effectivement des emplois aidés et qui peuvent effectivement retrouver une fierté d'avoir un travail, un rythme, etc. De toute façon, ça ne fera aucune économie, puisqu'on les basculera automatiquement sur le RSA, et que le seul delta qu'il y a entre le RSA et l'allocation qu'ils touchent actuellement sera mangé par les frais qui seront annexes aux travailleurs sociaux, etc. Donc c'est vraiment de la mauvaise politique. À chaque fois qu'on a un changement de majorité, on a des gens qui veulent remettre en cause les emplois aidés, la politique de la ville. Généralement, au bout d'un mois, il y a des gens compétents dans la nouvelle majorité qui expliquent qu'il ne faut pas le faire et les gens reviennent à la raison. Vraisemblablement, dans cette majorité, personne ne connaît ces problèmes-là. Aujourd'hui, les crédits qui sont supprimés comme ça du jour au lendemain sur la politique de la ville, c'est évidemment désastreux. La seule chose qu'on aurait pu faire et qu'on aurait dû faire, c'était distribuer nos crédits avant les élections présidentielles. On aurait dû se méfier. Et une fois qu'on les avait dépensés, une fois qu'on avait pris les choses, il fallait effectivement, on n'aurait pas pu nous prendre l'argent par la suite. Donc à l'avenir, je pense qu'il faut être extrêmement rapide. Et dès le 2 janvier, dès le 3 janvier, il faut avoir distribué l'ensemble des crédits, parce que malheureusement, on ne peut pas faire confiance à l'État dans ce domaine. Merci.
Merci, monsieur Cambianica, pour une minute.
Oui, monsieur le maire. Une élue parle du stationnement dans les quartiers politiques de la ville. En feignant d'ignorer que, justement, il y a des investissements dans ces quartiers pour augmenter les capacités gratuites de stationnement. Donc, il faudrait peut-être connaître la ville avant d'en parler. Une autre certaine élue parle de brutalité en oubliant celle dont elle a fait preuve pour le budget de la petite enfance. Mais bon, passons. Travail complexe et de longue haleine effectué par les services de la ville, les acteurs urbains et les associations depuis plusieurs années pour interpénétrer de manière plus prégnante ces quartiers et surtout leurs habitants à la ville historique, pour évaluer la pertinence des acteurs associatifs et revoir l'environnement urbain. C'est ça la politique de la ville. D'ailleurs, moi qui fréquente régulièrement ces quartiers, j'en mesure les évolutions, la fierté croissante de ses habitants, ainsi que leur implication plus prégnante dans la vie sociale. Les opérations immobilières en cours sont de nature à consolider le tissu social et à fixer les familles dans leur évolution géographique. Cependant, je note que pour un des quartiers, je pense aux Hautes-Vallières, les transports en commun ne sont pas à la hauteur des enjeux et que c'est une zone d'ombre dans la maille Le Met, malgré un développement urbain très conséquent ces dernières années. Je vous remercie.
Monsieur Lecadir.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, je voudrais saluer aussi ce rapport et saluer l'adjointe qui suit ces sujets et qui travaille, et je crois qu'elle a raison de travailler. On est plusieurs élus ici à travailler, simplement on s'organise pour avoir la majorité de travail d'ailleurs. Et ça me paraît même nécessaire. CF, le débat, les élus, les pieds sur terre, etc. etc. Ceci étant dit, je voudrais dire que la question de la politique de la ville est une question extrêmement importante et l'exemple de Metz est un exemple assez intéressant. Il fallait voir ce qu'était Borny il y a encore quelques années, ce qu'était la Patrotte il y a encore quelques années, et beaucoup de travail a été fait pour désenclaver ces quartiers, pour installer de nouveaux services publics, pour travailler sur l'intégration, l'accueil, l'apprentissage de la langue. Tout n'est pas parfait, mais dans ce pays où j'entends parfois dire que la politique de la ville est un échec, que c'est du saupoudrage et qu'il faudrait peut-être arrêter cette politique, ça serait à mon avis désastreux. Ça n'empêche pas qu'il faille s'interroger sur la manière de déployer cette politique, notamment à mon avis en s'occupant davantage des habitants de ces quartiers que simplement du bâti, même s'il faut, à mon avis, traiter les deux. C'est un élément qui me paraît important et j'espère que le nouveau gouvernement va déployer une nouvelle génération de la politique de la ville avec des moyens, parce qu'on a vu, lorsque Borloo, il y a quelques années, avait mis un grand plan avec des moyens, on voit l'impact d'un certain nombre de villes et de quartiers qui ont considérablement changé. Je voudrais terminer par un petit témoignage et un regret. C'est sur la suppression des crédits cet été. Je suis le président d'un orchestre à qui on a promis 20 000 euros pour faire un projet qui s'appelle Demos, qui est un projet extrêmement pertinent, qui accompagne des enfants très loin de la culture pour des raisons sociologiques, sociales, et qui sont engagés véritablement dans un projet qui est en train de marcher. Et on se retrouve à ne plus avoir ces 20 000 euros. Donc on est un exemple concret de décision prise à Paris et sans regarder forcément le terrain, très concrètement. Donc en attendant de trouver des solutions de fonds, moi il me manque 20 000 euros, donc est-ce que je les prends sur le budget de l'orchestre ou est-ce que je les trouve ailleurs? C'est du concret et je le dis sans aucune polémique, je fais partie des élus qui ne sont pas dans une logique d'opposition primaire, mais qui rappellent malgré tout que les décisions, quand elles sont prises parfois à Paris, elles peuvent avoir des impacts extrêmement compliqués pour ceux qui agissent sur le terrain.
Merci. Je vais donner 4 minutes à M. Lyogé.
Monsieur le maire,
chers
collègues, j'ai bien peur de ne pas avoir assez des 4 minutes. Vous m'excuserez pour répondre à toutes ces questions. On va commencer peut-être par celle de Madame Colin Osterlet sur la question de la brutalité. On peut peut-être assumer effectivement cette question de la brutalité, et je pense qu'il y a une explication. C'est comme quand nous sommes arrivés, quand le gouvernement est arrivé, il y a eu en même temps, il se trouve, le rapport de la Cour des comptes de Monsieur Migaud. Monsieur Migaud, vous connaissez son histoire politique, et ce rapport a été jusqu'à parler de budget insincère. Je le regrette d'autant plus que, je veux dire, très franchement, j'ai soutenu le gouvernement précédent et la politique de Manuel Valls, en tout cas, pour cette partie-là, et que, comme beaucoup, j'ai découvert cette insincérité supposée, puisque c'était dit par la Cour des comptes. Je vais vous dire qu'on est en train de découvrir effectivement un certain nombre de choses. Ce matin, j'étais en audition, puisque je serai rapporteur pour le budget des organismes de recherche. Le directeur de l'INSERM nous a dit qu'il avait un trou de 50 millions d'euros dans son budget aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on découvre effectivement tout un tas de choses comme ça. Donc, cette violence, elle est due au fait qu'à un moment donné, il faut... s'il vous plaît, laissez-moi répondre, cher docteur. Il est tout à fait clair que cette violence sur les emplois aidés, par exemple, et sur tout ce que vous avez dit, était due au fait qu'effectivement, il fallait un choc effectivement assumé politique. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez demander aux personnes à qui j'ai eu l'honneur d'écouter sereinement et sans faire de commentaires, Madame Zimmermann et Monsieur Wendling.
Écoute, Monsieur Lioger.
Voilà, merci. Et ce choc, il a pour but, effectivement, de ramener d'ici la fin de l'année, de donner un grand signal à l'Europe en dessous des 3% de déficit. Ensuite, cette remise à plat, d'une certaine manière, ne veut pas dire qu'il y aura abandon de tous les aspects sociaux que vous avez soulignés. Par exemple, dans la loi logement et dans le budget finance, on annonce le doublement des crédits sur la reconversion urbaine, c'est-à-dire qu'on passe de 5 milliards à 10 milliards sur les 5 ans. Ça veut dire qu'on double, effectivement, le budget consacré. Alors, je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche. Certains me diront, puisque je veux rendre hommage, puisqu'il a été parlé de Borny tout à l'heure, au travail qui avait été fait avant nous sur Borny, par certaines personnes ici présentes. Donc, je veux dire, cette politique, elle avait été localement initiée par Jean-Marie Roche, suivie par un député que vous connaissez bien, et nous nous sommes coulés dedans et nous avons continué dans cette... Alors, je ne sais pas, dites-moi, vous qui êtes spécialiste de la division entre la droite et la gauche, est-ce que c'était une politique... Oui, ben voilà. Donc, effectivement, on a, dans les aspects sociaux, par exemple, 200 000 emplois aidés qui seront reconduits au budget de l'année prochaine, mais qui seront ciblés exclusivement sur le secteur non marchand. Je ne voudrais pas redire ce qu'a dit très bien Thierry Jean sur, effectivement, le retour à l'emploi d'un certain nombre d'emplois aidés. On a tous conscience que les politiques sociales, aujourd'hui, connaissent un petit peu leurs limites, dans la mesure où la seule chose qui va pouvoir faire en sorte que ces politiques sociales, qu'on voit bien, qui sont des aides, qui sont une manière de, je dirais, d'aider des situations difficiles, ne seront définitivement résolues, excusez-moi d'être utopique, que quand tout le monde aura du travail. Voilà. Et un vrai travail, et pas un travail, je dirais... Alors, je ne sais pas non plus si c'est de gauche ou de droite, parce que, bon, je ne suis pas sûr. Voilà. Ensuite, et j'aurais... Non, ce n'est pas le revenu universel, vous avez raison, M. Cazin. On est bien d'accord. Enfin, ça me fait rigoler de voir les soutiens de M. Fillon, qui étaient ici quand même assez nombreux, nous expliquer que, effectivement, on cherche à faire des économies dans le programme de M. Fillon, que vous avez soutenu les uns les autres, ou de M. le maire, Mme Nicolas, qui est aujourd'hui ministre de l'économie, je vous signale, eh bien, il y avait des économies qui étaient bien plus importantes. Et effectivement, un petit peu comme hier sur la loi sur la sécurité, je pense que ce gouvernement fait une politique équilibrée entre du réalisme et des aides sociales qui doivent continuer à être maintenues en attendant tout cela. Merci.
Merci. Alors, je vais donner la parole à Madame Saadi, mais je voudrais simplement dire à Madame Zimmermann que je n'ai pas encore reçu de réponse. Madame Zimmermann, je réponds à votre question. Je n'ai pas encore reçu de réponse du Premier ministre à la lettre que je lui ai envoyée. Et que, deuxièmement, je n'ai jamais demandé à un adjoint d'être à plein temps en fonction de leur carrière professionnelle, personnelle. Je pense qu'il est normal que les gens aient des métiers et les exercent. C'est même un peu utile, de façon à ce qu'on évite d'avoir quelque part des professionnels de la politique. Et je salue la capacité de Mme Saadi à être à la fois mère de famille, adjointe à plein temps et en même temps d'exercer une profession avec succès. Je lui passe la parole maintenant. Mme Saadi, c'est à vous.
Je vous remercie. Pour moi, ce point est très important parce qu'il remet en cause... Il remet en exergue une politique de la ville qui est présente en France depuis une trentaine d'années et il faut arrêter une amnésie générale qu'on peut avoir et dans les discours que je vais avoir, qu'on a pu entendre ici. Parce que beaucoup ici parlent du social que dans une aide financière à des personnes. Mais le social, c'est au-delà de ça, c'est l'émancipation des gens. Et moi, quand des crédits sont coupés, c'est des MOS qui disparaissent, c'est des classes orchestres qui disparaissent au collège Awapi ou qui peuvent disparaître au Haut-de-Bléman. C'est de l'accès au droit qui est coupé. Et donc aujourd'hui, cette brutalité, elle est là, elle est vécue et c'est vers les plus fragiles. La politique de la ville, elle existe depuis 30 ans. Aujourd'hui, il y a 15 jours à peu près, l'Atlas des QPV d'observation des quartiers politiques de la ville sur l'ensemble de la France est sorti. C'est ce petit document. Je l'ai ressorti pour Metz Métropole. Et on peut dire que la politique de la ville et la politique de rénovation urbaine a fait du bien à l'ensemble des quartiers. Parce qu'on ne voit qu'un seul facteur où la politique de la ville est en avance, c'est sur le taux de vacances dans les quartiers QPV. Parce que ce taux de vacances est beaucoup plus faible que dans le reste de la métropole. Je vais vous les donner pour Metz Métropole. Le taux de vacances dans les QPV est d'environ 7%. Et dans le reste de la métropole, elle est de 12%. Ça veut dire qu'une politique qu'on mène depuis 30 ans, aujourd'hui, elle mène ses effets. Et ce n'est pas en 2 ans ou en 3 ans qu'on arrivera à régler les choses, mais c'est sur le long terme. Et faut, je le répète à chaque fois, dans les QPV, nous avons environ 30% de gens qui changent de logement chaque année. Donc chaque fois, on doit recommencer des parcours d'accès aux droits, d'information, d'aide à l'emploi pour certaines personnes. Et ce n'est pas forcément des redites sur ça. Sur ce rapport, moi aussi, je suis comme vous, des fois dubitatif sur des associations, sur du travail qui a été fait. Je ne remets pas en cause, mais en disant qu'il faut qu'on se reconstruise. Donc moi, ce que je demande, et parce que c'est aussi ça le but de ce rapport de débat aujourd'hui, c'est de dire quels moyens on va mettre à la métropole pour l'observation de cette politique de la ville. En 2014, cette loi qui a été votée, elle a été votée à l'unanimité gauche et droite réunies. En se disant, on a une observation, on a une feuille de route, c'est cet atlas. Et le but, c'est que dans 5 ans, les écarts soient réduits, à minima. Donc, c'est aujourd'hui ça notre travail. Sur, je le ferai envoyer à l'ensemble peut-être du conseil municipal, parce que je viens juste de l'avoir. Donc, sur l'évaluation, nous avons encore des choses à faire sur cette évaluation. Elle est très importante et elle a un coût. Parce que quand on évalue, il faut mettre le coût aussi d'évaluation. Donc ça, il faut pas se dire. C'est aussi la politique de la ville. Sur 2 millions d'euros qui est mis sur la politique de la ville, il y a 8 millions d'euros dispositifs de droit commun. C'est comment on mobilise ce droit commun sur ces quartiers politiques de la ville. Et la Cour des comptes l'a vraiment démontré une année où c'était dans ces quartiers où le droit commun était le moins mobilisé. Les seuls qui ont fait des efforts, c'était la NPE. La NPE qui est quasiment dans tous les quartiers politiques de la ville, dans l'ensemble de la France. Et il y a eu des moyens qui ont été faits de ce point de vue. Et il y a le travail merveilleux des missions locales. Aujourd'hui, ce qui accompagne les jeunes aujourd'hui, ça ne sert à rien que moi je crée un dispositif en plus en politique de la ville. On a la mission locale qui est au cœur du quartier de Borny et qui est au pôle des Lauriers, qui est au rez-de-chaussée et qui suit les hommes et les femmes sur le quartier. Et vous avez raison, Madame Zimmermann, sur l'employabilité des femmes, parce que l'écart est très important dans les quartiers politiques de la ville et peut-être qu'il faut qu'on en fasse encore plus. Nous avons financé des associations, mais vraiment maintenant il faut qu'on voie concrètement les résultats. Aujourd'hui, on est là. Je ne vais pas polémiquer sur l'argent manquant. On l'a déjà fait. Le maire a porté notre parole auprès du Premier ministre. Nous attendons des réponses, mais il est hors de question que la ville de Metz assume à elle seule le fait de décider quelles associations n'auront pas leur argent. C'est à l'État d'assumer, parce que ce contrat de politique de la ville en 2014... c'est un contrat de partenariat et il y a une rupture de confiance qu'il a. Partenaire parce qu'on avait des réunions continuelles avec l'État. Et je vais vous dire, vous avez dit, on n'a pas été assez vite pour passer les subventions. Si, même j'ai été trop vite parce que les subventions, j'ai voulu les faire passer en février 2017. Ils sont passés la première fois en février 2017 à ce conseil municipal pour 60% des subventions pour que les associations puissent avoir un cap et une visibilité. On a fait exprès de passer les deuxièmes subventions en se disant il y a peut-être des projets intéressants, mais on va voir ce qui va nous rester par rapport à ça. Après, il y a aussi tout le cheminement à régler, l'articulation à régler entre la ville de Metz Métropole et les autres acteurs de territoire. Et je souhaiterais que ce débat soit aussi fortement porté à Metz Métropole, parce que le développement économique, c'est aussi Metz Métropole, et nous avions signé une convention sur le droit commun, par exemple, de Metz Métropole Développement pour qu'il y ait des actions directes sur le droit commun sur les quartiers politiques de la ville. C'est ça notre travail. C'est aussi d'aller voir ailleurs où il y a de l'argent pour essayer de développer au maximum ce droit commun en signant des conventions avec l'éducation nationale ou autre. Donc, c'est un chantier qui est vaste. Ne soyons pas amnésiques ni pessimistes. Moi, je vois tous les jours des choses positives dans ces quartiers. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que je ne suis pas contre du traitement de la pauvreté, même si la pauvreté est dans ces traitements, mais l'évolution de ces personnes est vraiment vers l'émancipation de ces publics dans l'ensemble des quartiers messins. Et c'est aussi, ça fait partie aussi de l'ensemble de notre politique de la ville, où on veut que ce soit une politique inclusive à tous les messins et que toute institution culturelle ou autre, l'ensemble des messins puisse y accéder.
Merci, madame. C'est sans vote puisqu'il s'agit de prendre acte, hein. Mais j'ai quand même retenu une chose qui est importante, c'est que Madame Zimmermann a posé une autre question, c'était peut-être pas vous, c'était peut-être Madame Singer. Pourquoi une année en deux années? C'est parce que Metz Métropole, l'État et nous, on s'est mis d'accord sur ce thème-là parce qu'il y avait trop de nouveautés pour l'ensemble des élus de Metz Métropole. Et je dois vous le dire ici, il y en a encore trop de nouveautés. C'est-à-dire qu'on arrive ici à avoir un débat sur la politique de la ville de qualité, et je vous en remercie, c'est compliqué de mettre sur le tapis ce type de problématique à Metz Métropole, parce qu'énormément de maires et de représentants de Metz Métropole sont à 100 lieues de ce qui nous arrive à nous dans nos 5 quartiers politiques de la ville, voire dans les autres. Et les charges de centralité qui sont innombrables en ce qui nous concerne, on les a aussi dans la pauvreté, dans la misère et dans la difficulté. Et faire partager ça et ces problématiques-là à l'ensemble des collègues de Metz Métropole, c'est une sacrée difficulté. Et Madame Saadi s'y emploie avec également d'autres, la ville de Voipy, qui est aux premières loges, il faut bien le dire. Hein, et voilà, on a fait le tour. Après ça, ce n'est plus les quartiers politiques de la ville. Et donc, c'est compliqué de faire comprendre que la politique de la ville, c'est la politique de toute l'agglomération et donc toute la métropole, et pas la politique des villes, des deux communes, finalement, qui ont les problèmes sur leur territoire. Voilà, on a eu un bon débat. Attendez, absolument. Alors, je crois qu'on va arrêter le débat parce qu'on y reviendra, madame. N'ayez crainte. Alors, le centre d'affaires. Vous avez raison, j'ai oublié d'y répondre. Le centre d'affaires fait partie des préoccupations de Inspire Metz, hein, l'agence d'attractivité, et on a bien l'intention d'installer un centre d'affaires à Borny. C'est un peu compliqué sur le plan des locaux, mais on s'en occupe. C'est à l'ordre du jour. Voilà. Merci pour ce débat. Il n'y a pas de vote, M. Belada. Je ne peux même pas vous donner l'explication de vote.
Oui, je sais bien. Je voulais quand même prendre la parole sur un sujet important.
Alors, allons-y. C'est exceptionnel.
Merci. Je voulais prendre la parole sur un sujet important, partager bien entendu les préoccupations, et ce n'est pas l'adjoint au sport ou l'ancien adjoint au sport qui démentira les difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre d'associations sur ces aspects. Redire une chose importante, c'est que les décisions qui ont été prises cet été ont été de manière conjoncturelle, sur un budget qui ne nous appartient pas. Et il a fallu prendre nos responsabilités. Richard Lioget avait évoqué tout à l'heure le rapport de la Cour des comptes. Moi, j'ai participé à l'audition sur un autre sujet de M. Migaud, premier président de la Cour des comptes, au sujet des comptes de la Sécurité sociale. On nous a vanté pendant des mois l'équilibre. C'est vrai qu'il y a eu de nombreux efforts qui ont été faits ces dernières années, c'est vrai. Mais l'équilibre qu'on nous a vanté pendant la campagne électorale, il n'est pas là. C'est près de 5 milliards de déficit. Voilà. Et nous avons pris nos responsabilités par rapport à ça. Richard Lioget avait pris l'exemple du logement.
On s'éloigne un peu de la politique de la ville, là.
Ouais. Mais je voudrais juste revenir sur les contrats aidés, monsieur le maire.
Oui, alors, concluez sur les contrats aidés, parce qu'on on s'éloigne, là. Hein.
Oui, sur les contrats aidés, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il a été constaté une forte diminution des contrats aidés programmés pour 2017. Le chiffre avait été donné tout à l'heure. Et ça avait été déjà en 2000, entre 2016 et 2017, un chiffre qui avait fortement déjà diminué et avec une surconsommation des crédits en début d'exercice, et particulièrement au Moselle. Et une rallonge avait été faite, certes insuffisante, mais elle a été faite. Je voudrais dire à travers ça que c'est toutes nos politiques publiques qu'il faut revoir à ce niveau-là. Et il faudra nous juger sur les budgets à venir, et ce sur celui de 2018, où il faudra véritablement nous juger en termes d'orientation, de priorité, et notamment sur ces questions-là. Merci, monsieur le maire, de m'avoir donné la parole.
Merci.